podcasts de Radio Vatican.
En Inde, c'est ce lundi 17 juillet qu'un collège électoral de députés choisit le nom du futur président de la République. Cette élection se joue entre les poulains des deux principales formations politiques du pays, Ram Nath Kovind, qui représente le BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, et Meera Kumar, qui représente quant à elle le parti du Congrès. Nath Kovind et Kumar ont un point commun, ils sont dalits de l'ancienne caste des intouchables, une configuration assez inédite, même si l'Inde a déjà eu un président dalit entre 1997 et 2002. Si cette double candidature ne risque guère de changer la donne politique actuelle, elle constitue malgré tout un signe important pour une communauté qui a longtemps bataillé pour la reconnaissance de ses droits et continue de le faire, et contre les discriminations liées à l'ancien système des castes officiellement aboli par la constitution laïque de 1950. Robert Deliège est anthropologue spécialiste de l'Inde et professeur à l'université catholique de Louvain. Il revient sur la signification de cette double candidature dalit à la présidence indienne.
Je pense que c'est inédit. Par contre, certains présidents de la République étaient issus des castes intouchables, donc ce qu'on appelle en Inde les scheduled castes. Ce n'est pas anormal, c'est même assez fréquent, puisque le président de la République est supposé émerger le plus souvent des minorités. Donc, que ce soit des Sikhs, des musulmans ou des minorités de l'Inde, il n'a guère de pouvoir, mais il représente l'ensemble des Indiens et par là aussi les minorités.
Est-ce que cette double nomination, est-ce qu'elle obéit à un choix stratégique des partis?
Je ne pense pas vraiment. Je pense que, bien sûr, on veut flatter d'une certaine façon l'électorat des classes intouchables en particulier, mais je suppose que ça a été une réponse du berger à la bergère quand le Congrès a présenté une candidate qui n'est pas d'ailleurs une candidate défavorisée, sinon par ses origines très très lointaines. Son père était une personnalité extrêmement importante du parti. Il a toujours été l'alibi intouchable un peu du Congrès, celui qu'on a mis dans tous les gouvernements pour montrer qu'on avait cette... Et donc, ses enfants, ce sont des gens qui n'avaient rien de pauvre et misérable, puisqu'elle avait même une carrière assez importante et brillante. Donc, ça ne va pas faire une grande différence non plus. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à y gagner vraiment.
Alors, les intouchables, les dalits, ont longtemps connu des discriminations, des violences. Est-ce que depuis l'abolition du système de caste, leur situation a évolué ces dernières années?
Bien sûr, énormément. Donc, on ne peut pas parler d'une classe homogène. D'ailleurs, le terme même dalit est très ambigu de ce point de vue-là. Auparavant, on les appelait par d'autres termes, des euphémismes qui signifiaient toutes sortes de choses. Et ils étaient plutôt soutenus par le Congrès. Donc aujourd'hui, ils se sont un peu dispersés dans tous les partis. Ils sont, comme d'ailleurs un des candidats est soutenu par le parti nationaliste hindou, ce qui n'est pas un des moindres paradoxes, n'est-ce pas? Et puisque c'est un parti qui était plutôt associé aux castes hindoues traditionnelles et avec une importance des hautes castes en son sein. Mais donc, leur sort s'est considérablement amélioré, puisqu'il faut savoir que depuis l'indépendance, ils jouissent de quotas dans à peu près tous les niveaux d'administration, ils jouissent de quotas d'entrée dans les universités, notamment les facultés, où des sièges sont assez, les places sont assez limitées, comme en médecine, par exemple. Donc, il y a à peu près 15% des médecins qui sont de cette origine, dans l'Inde aujourd'hui, depuis les années 50.
L'amélioration de la situation a également permis l'émergence d'une certaine élite dalite.
À mon sens, c'est d'ailleurs cette élite qui tente à être la plus vindicative et à revendiquer des avantages qui lui sont profitables. Mais ceci étant, les améliorations, le progrès social a été à tous les niveaux. Donc on le voit parmi les couches les plus faibles aussi, avec ou sans l'aide du gouvernement, on a eu une ascension sociale importante. Donc on a aujourd'hui une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que on a une bonne partie des gens d'origine intouchable qui a un statut assez moyen, disons, sinon supérieur, et il reste évidemment une grande part de gens qui sont extrêmement pauvres et qui sont plutôt au bas de l'échelle socio-économique, disons, aujourd'hui. Donc ce n'est plus du tout un groupe homogène, si vous voulez. On retrouve toutes les composantes de la société au sein des dalits. Alors que dans le discours un peu militant, on a l'impression de n'avoir affaire qu'à des pauvres. Hein, comme si le seul fait d'être d'origine intouchable suffisait à être exploité et malheureux, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Les candidats à l'élection présidentielle en sont le parfait témoignage.
Alors, vous évoquez une amélioration globale, générale de la situation des Dalits. Parlons à présent des minorités. Je parle surtout des minorités religieuses, à savoir les chrétiens et les musulmans. Ces minorités ne parlent pas d'amélioration de leur situation, bien au contraire. Elles parlent d'une détérioration, d'une montée croissante de l'intolérance religieuse suite à l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste hindou.
Certainement, bien sûr que l'Inde a été un pays extrêmement tolérant, extrêmement ouvert, notamment sous l'égide du parti du Congrès, qui a été dominant jusque dans les années 1990 environ, enfin qui a continué de régner après d'être au pouvoir plus ou moins après aussi, mais qui n'a plus cette domination exclusive, disons, et qui était un parti séculariste, républicain, si vous voulez, on dirait républicain aujourd'hui, avec des valeurs, donc qui encourageait les minorités dans une large mesure. Donc il y a eu une relative paix sociale de ce point de vue pendant des décennies, et le nationalisme hindou est un peu venu poser problème, disons, à cet équilibre qui avait été atteint. Donc aujourd'hui, on a vu pas mal de, c'est une chose nouvelle depuis une décennie environ, pas mal d'attaques contre les chrétiens, ce qui était quand même très nouveau dans la mesure où les chrétiens étaient extrêmement bien intégrés, plutôt proches du Congrès, et extrêmement bien intégrés, c'était des Indiens tout à fait comme les autres, qui n'avaient aucune différence notoire, disons, par rapport au reste de la population, et qui revendiquaient d'ailleurs leur indianité, leur appartenance à la société civile indienne. J'ai toujours eu l'impression que des violences se sont manifestées contre eux, justement parce que elles se déroulaient plutôt dans l'indifférence générale, notamment internationale, alors que les musulmans sont une minorité beaucoup plus importante, que les violences donnent lieu très souvent à des répliques. Pour les chrétiens, ça s'est passé quand même fortement dans l'indifférence quasiment totale. Il y a eu très très peu de réactions, notamment dans la presse occidentale, mais ailleurs dans le monde, guère plus. Et donc, c'est quelque chose qui est bien sûr inquiétant dans une certaine mesure, et qui, je ne peux pas dire qu'il y a véritablement un péril important. Ça s'est nettement aggravé au cours des dernières années, mais tout de même, c'est une source de préoccupation importante aujourd'hui.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.